C'est pas faux.
That's like not being on Facebook.
I'm not on Facebook.
You're so fucking classy.
Where is Jessica Hyde?
So there's two ways this could go, Precious. Kick or kiss. They both end the same. With my dick up your ass.
Like, there's this guy who invented this car that runs on water, man. It's got a fiberglass air-cooled engine and it runs on water.
Shut up. Shut up, guys. Shut up.
Please
shut
stop.
Up.
I...
Shut up. Shut up. Shut up. Shut up.
Allez, je te laisse chez les crocs.
Bienvenue à l'écoute de Série Folie, épisode 8, saison 2, sur votre radio favorite. Bien le bonsoir, Aurore, tu vas
bonsoir.
Bien ?
Bonsoir, oui, je vais bien.
Oh, comme chaque semaine, c'est un plaisir de te retrouver. On va parler évidemment série télévisée, et je te propose déjà de faire un petit tour de l'actu de la semaine, peut-être ?
Oui, alors, j'ai une première nouvelle qui pour moi est une bonne nouvelle, c'est un petit peu mon plus méchant.
Et ouais, je sens quelque chose de sadique, je ne sais pas pourquoi.
Non, mais je ne sais pas si vous vous souvenez que la semaine passée, j'ai parlé d'une série qui m'avait beaucoup énervée, qui s'appelait Manhattan Love Story. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle est déjà annulée.
Ben voilà, c'est bien ce que je dis, c'est sadique. Ben merci pour les producteurs, ok, c'était peut-être mauvais, mais bon, c'est pas sympa.
Mais en tout cas, j'ai pas été la seule à pas avoir aimé, ça me fait quand même plaisir.
Bon, pour une fois, tu vas dans le même sens que tout le monde, c'est rare, c'est à souligner, voilà.
Et je crois que c'est la première à vraiment être annulée, donc voilà. Et bon, dans le côté un petit peu plus positif, là, dans le plus de la semaine, je mettrai la saison 2 de Masters of Sex que j'ai eu l'occasion de regarder.
Ouais.
Et qui m'a paru absolument exceptionnel, magnifique, que je conseille à tout le monde. Et qui est bien meilleur d'après moi que la première saison. Donc si vous avez l'occasion de la regarder, vraiment n'hésitez pas.
Et toi, t'es déjà tout consommé, c'est fait.
Ah, c'est fait.
C'est bien. D'ailleurs, on écoute le générique pour ceux qui n'auraient pas reconnu en musique de fond.
Voilà. Maintenant, le petit moins de la semaine, ça va être le fait qu'il n'y aura pas de saison 3 à The Bridge. The Bridge, c'était le remake américain de Braun. Une série nordique.
Oui.
Et qui se passait là, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. C'était une série que personnellement j'avais plutôt appréciée. J'ai regardé les deux saisons. J'avais bien aimé, surtout, notamment l'ambiance qui était distillée à travers la musique et les paysages. Eh bien, on n'aura plus l'occasion d'en voir plus. Donc je vous propose, en signe de dommage,
voilà,
d'écouter le générique qui met vraiment bien dans l'ambiance
donnait
cette
côté
série.
Ambiance, on va certainement se plonger dans l'ambiance cowboy, sud des États-Unis, californien, voilà, c'est très marqué.
Until I am one with you. My heart shall not pass through. Our love will be mistaken.
Nous voilà déjà de retour, on va revoir, si je vois bien ma petite fiche, un pilote que tu as pu découvrir cette semaine.
Oui, on va voir un pilote très léger cette semaine, on va parler de Jane the Virgin.
Ok.
Alors, Jane the Virgin, c'est une série qui est diffusée par la CW et qui est basée sur une telenovela. Et qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui est donc restée vierge par conviction religieuse, plus ou moins, surtout parce que sa grand-mère lui a inculqué ça très jeune. mais qui, suite à une erreur médicale lors d'un examen gynécologique, va se retrouver inséminé.
Ok. Voilà.
Alors, le pitch comme ça, ça fait très peur. Et d'ailleurs, je crois que tout le monde, toutes les personnes qui avaient entendu parler de ce projet-là à la fin de l'année précédente, s'étaient dit, oula, sur quoi est-ce qu'on va tomber ici ? Probablement une sorte de série anti-avortement, un truc très, très engagé, etc.
Il n'en est rien, apparemment.
C'est beaucoup plus léger et beaucoup moins conventionnel qu'on aurait pu le craindre. Oui.
Bah, je veux dire, moi, quand j'ai pas vu le pilote, quand j'entends le pitch, je me dis, oula, ils ont vraiment besoin d'idées jamais vues. Enfin, ça paraît quand même un peu scabreux comme démarrage.
Oui, c'est particulier, hein, ça il faut l'avouer, mais il n'hésite pas à aller à fond là-dedans, justement, dans le côté très soapesque, très telenovela, donc vraiment on va à fond dans les quiproquos et dans les situations totalement improbables, puisque finalement tout le monde se connaît déjà plus ou moins d'une manière ou d'une autre, de manière cachée, et c'est plein de portes qui claquent et de rebondissements quasiment. On le sent déjà dès le départ qu'on se prend pas au sérieux.
Ouais, voilà, ils ont un concept quoi, en gros, ils s'y tiennent.
Oui.
Et le sujet de base, c'est pas vraiment le sujet autour de l'avortement ou pas, c'est plus sur les situations complètement grotesques et improbables.
Oui, c'est plus vraiment sur ce rythme très, très enchaîné comme ça et très, très léger finalement d'une série qui se prend vraiment pas au sérieux, et c'est très rafraîchissant. Je sais pas si vraiment j'aurais envie de regarder pendant super longtemps, mais le minimum, c'est que je peux dire que c'était une bonne surprise de la rentrée malgré tout. Et si vous avez l'occasion de la regarder, pourquoi pas, ça peut être très divertissant en tout cas.
Oui, et puis comme les bonnes surprises sont rares, profitez-en.
Voilà.
Une fois qu'on en a détecté une.
Et les personnages sont plutôt attachants aussi, ce qui fait plaisir. Et on peut comparer ça, enfin, en tout cas, moi je le comparerais un petit peu à une autre série qui cible fort le public latino-américain qui s'appelle Cristela, que j'ai eu aussi l'occasion de voir et qui était beaucoup moins drôle, alors que c'était censé être une comédie. Donc ici, on se prend pas au sérieux, mais sans aller dans les stéréotypes un peu trop bébêtes, quoi. Ça fait plaisir.
Parfait. Ben voilà.
Voilà.
C'est vendu. Une petite pause musicale. Licky Lee. Tiens donc, pourquoi Licky Lee ?
Pourquoi ? Parce que on l'a entendu dans des séries, et notamment dans Forever, une des nouvelles séries de la rentrée, et c'est No Rest for the Wicked.
For that one who got away,
Série Folie continue avec une série mise à l'honneur, une série, j'ai envie de dire, assez bien suivie, puisqu'elle a du budget. On parle de Walking Dead. Alors, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du bois à boire et à manger dans cette série. On va en parler avec Aurore.
Voilà, on va commencer par la présenter. The Walking Dead, c'est une série qui nous est proposée par AMC depuis 2010 et nous avons commencé cette saison-ci, la cinquième saison. Elle est adaptée d'une bande dessinée par l'auteur Robert Kirkman, enfin, oui, bon, encore une fois, je vais pas m'essayer. Et Frank Darabont. Et on y retrouve dans les rôles principaux, notamment Andrew Lincoln qui joue Rick, Steven Yeun qui joue Glenn, Norman Reedus qui joue Daryl, Melissa McBride, Carol, Lauren Cohan, Maggie et Danai Gurira. Michonne. Voilà, et ça nous raconte quoi? Ben, ça nous raconte l'histoire, au départ en tout cas, d'un policier, d'un shérif, ou je ne sais pas s'il est shérif finalement, il a l'étoile, mais...
Voilà, c'est un représentant de l'ordre aux États-Unis.
Voilà, qui, suite à une blessure, s'est retrouvé dans le coma pendant un certain temps. Et lorsqu'il se réveille, il se retrouve dans un monde totalement envahi par les zombies. Il n'a plus aucun lien avec sa femme et son fils. Et donc, il va partir à leur recherche, tout en essayant de survivre dans ce monde dans lequel la vie est devenue quand même très, très difficile.
Oui, il y a beaucoup de morts vivants. Bon, ils sont un peu bébêtes, hein, mais...
Oui, il y a moyen de survivre.
Il y aurait moyen de survivre, mais bon, apparemment, dans cette série-là, ils n'ont pas compris comment, ou en tout cas, comment bien le faire. Moi, j'ai plein de bonnes idées.
Toi, t'as des idées, évidemment. Voilà.
Mais bon, on en parle après. Pour la présentation, bah, en gros, le pitch est fait.
Oui.
On peut dire qu'il va retrouver sa famille.
Ah, toi, tu spoil tout de suite.
Bon, écoute, on en a la cinquième saison.
Oui. Non.
On ne spoil pas grand-chose, hein.
Ok, ça va. Bon, quoi qu'il en soit, moi je vous ai choisi un extrait du pilote, justement pour ne pas spoiler, hein. Je vous le propose de l'écouter. Ça met déjà dans l'ambiance du nouveau mode de vie face auquel il va devoir s'adapter, puisque c'est sa première rencontre avec un survivant à sa sortie d'hôpital. Et puis on se retrouve après pour la critique.
Got that bandage changed now. It's pretty rank. What was the wound?
Gunshot.
Gunshot? What else? Anything?
Gunshot ain't enough.
Look, I ask and you answer. It's common courtesy, right?
Did you get bit?
Bit, chewed, maybe scratched, anything like that.
No, I got shot. I just shot, as far as I know.
Hey, just let me. Feels cool enough. Fever would have killed you by now.
I don't think I have one.
Be hard to miss. Take a moment. Look how sharp it is. You try anything, I will kill you with it, and don't you think I won't.
Voilà donc pour l'extrait. On va un peu parler de la qualité intrinsèque de cette série.
Oui, on va essayer d'abord d'énumérer les points positifs de cette série, si tu veux bien.
Oui, bah franchement, moi j'ai accroché au début de cette série, je continue à la suivre parce que voilà, il y a quelque chose à regarder. Mais côté positif, dis-moi un petit peu ce que
Alors,
tu en penses.
Côté positif, le pilote déjà était très bon. Hein. C'est vrai que la plupart des gens qui suivent la série probablement ont surtout accroché grâce au pilote. Après, reste à savoir combien de temps on va tenir encore grâce à ce pilote-là, parce que malgré tout, bon, Il y a certaines qualités que l'on ne retrouve plus depuis un certain temps.
Oui.
Mais bon, bref, les qualités, on va déjà souligner l'univers qui est assez bien représenté. On a un univers totalement post-apocalyptique, très dangereux, avec des effets spéciaux très bien fait même. On a un petit peu, d'ailleurs, on pourrait faire la même critique à peu près pour Game of Thrones. On a un petit peu la scène obligée vraiment dégueu de l'épisode.
On la repère, même dans certaines saisons. Saisons et épisodes, elle arrive assez tôt et on se dit, on l'a vu et ils n'auront plus le budget pour cet épisode-ci pour nous faire peur.
Voilà, ça c'est fait. Donc bon, c'est un petit peu systématique et c'est ce qui peut être énervant, mais on voit en tout cas que les gens qui sont engagés pour faire les effets spéciaux dans cette série s'en donnent à cœur joie et qu'ils ont les budgets pour suivre. Voilà. Et l'univers est aussi, fait partie de cet univers en tout cas, les personnages qui probablement parce que ça vient d'une BD et donc c'est déjà au niveau visuel très bien caractérisé, mais on a des personnages qui eux aussi sont très bien caractérisés d'un point de vue visuel. Notamment les personnages comme Mission, comme Glenn, comme Daryl, comme Rick même, ont tous une sorte de code visuel très identifiable dès le départ qui leur donne
une identité propre,
assez facilement reconnaissable. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, la critique que moi je ferais, même si j'imagine que d'une personne à l'autre ça peut changer, c'est très subjectif. Je trouve que il y a quand même assez peu de personnages auxquels on peut vraiment s'attacher.
De un, à mon avis, parce que le monde est assez hostile, donc ils ne sont pas vraiment de bonne humeur. Et de deux, ils doivent prendre des décisions qui, au final, ne nous plaisent peut-être pas. Et donc, ils deviennent de plus en plus antipathiques. C'est un peu le problème, comme on l'avait déjà exprimé dans les Sopranos, pour d'autres raisons. Mais à force de les voir vivre leur petite vie dégueulasse, dans ce cas-ci, on n'est peut-être pas d'accord. On se trouve ça peut-être stressant et... Il y a très peu de moments où on a l'occasion de s'attendrir dans cette série. Donc,
je suis pas sûre. Une des choses justement qui me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'on s'attendrit trop. Il y a beaucoup de moments où on pleurniche. Une grosse partie de la saison 2. Autour du petit garçon de Rick, ça va être totalement larmoyant. J'ai l'impression justement qu'il y a énormément de moments larmoyants dans cette série qui, moi, me fatiguent, m'énervent.
Toi, ça te fatigue, moi, je n'y suis pas sensible.
Et les personnages qui pleurnichent, j'arrive pas à m'attacher à eux. Quoi.
Non, mais toi, ça t'énerve. Moi, j'y suis pas... Quand je dis que je n'y suis pas sensible, ça ne m'énerve pas. Oui, tu as peut-être raison, c'est un point de vue. Mais...
C'est subjectif, c'est vrai que moi, en tout cas, ça me dérange. Une autre chose qui me dérange aussi et qui participe probablement de la difficulté de s'attacher aux personnages et aux propos, c'est que, il n'y a pas vraiment de but. Dans la saison 1, il y avait un but.
Oui.
Et puis après quoi ?
Mais oui, mais ça c'est le gros défaut, ça c'est ma critique, moi personnelle, c'est vivre comme ils le font là, je le ferai pas, hein. Dans ce monde-là, je peux vous jurer que je m'en sortirais mieux que ça, j'aurais vite fait de me trouver une villa luxueuse un peu bien gardée avec une piscine, et j'arrêterais de vivre dans les bois sans spoiler rien du tout, hein, parce que voilà, c'est l'univers, j'aurais vite fait d'aller dans un endroit bien plus agréable que là où ils sont depuis un certain temps maintenant.
Mais écoute, ce jour-là, je te suis.
Voilà, ok. Pour le reste, une autre critique que je pourrais faire, c'est que oui, il n'y avait pas de but. J'ai l'impression qu'on en retrouve un pseudo dans la dernière saison, pour le moment.
Oui, là, il semble, mais j'ai peur.
Oui, ça fait très peur, surtout pour la saison 4, on ne va rien dire, mais il s'y passe pas grand chose en cette saison 4 finalement, ou en tout cas la montée en puissance vers le but final est assez ça se résout d'une manière tellement rapide et anodine que ça valait pas la peine de nous tenir je sais pas combien il y a d'épisodes par saison, mais
en tout cas elle avait en plus beaucoup plus d'épisodes que les autres saisons,
et il paraissait lent, mais bon, voilà, ça on vous raconte pas l'histoire, mais en tout cas il y a une sorte de baisse de régime certainement durant la saison 4. Moi j'ai bien aimé les deux premières saisons, surtout que la deuxième saison était un peu plus lente, mais il y a eu une sorte de fin assez poignante,
oui,
hein, on peut
vrai,
le dire, hein, un peu à la Lost comme ça, où on s'est fait chier et puis malgré tout ça valait la peine. Mais non, mais c'est vrai. Moi je tiens parce que l'univers, comme tu l'as dit, s'est mis en place très rapidement, a marqué les esprits.
Oui.
Et on a du mal à le laisser partir, cet univers, mais c'est clair que s'il ne se réveille pas un petit peu très vite, je vais être déçu.
Mais moi, ce qui me fait peur, après on va parler d'autres points, mais ce qui me fait peur dans cette reprise saison 5, c'est que ça lorgne un peu trop du côté d'une autre série dont j'avais pu parler, qui parle aussi de vampires, toute nouvelle, qui s'appelle Z Nation.
Mais j'ai oublié le dernier épisode, pardon.
Et franchement, cette série-là me paraissait beaucoup plus fun, parce que beaucoup plus on y va à fond et on s'en fout de pleurnicher, etc. Le propos, c'est pas ce qui nous intéresse.
Non, non.
Mais en même temps, c'est un petit peu ridicule. Enfin, je trouve ça un petit peu ridicule.
Je retire un petit peu ce que j'ai dit par rapport à... Oui, non, le dernier épisode est un peu tiré par les cheveux. Et j'ai bien peur que ça puisse pas se récupérer dans les épisodes prochains.
Voilà. Bon,
okay.
Bref.
Alors
à part ça... Pour le propos, on peut se dire oui, il y a une question, comment peut-on garder son humanité alors que la civilisation a disparu, oui, sauf que c'est très très pessimiste la manière dont ils présentent les choses, et c'est de pire en pire, faut le dire quand
une
même.
Une fois, je pense pas qu'on puisse en arriver à ça dans la même situation en vrai, mais bon, voilà, c'est un point de vue.
Voilà, en tout cas, eux, ils présentent un univers très très pessimiste. Faut quand même rappeler que Frank Darabont, c'est notamment celui qui a réalisé The Mist, donc on peut comprendre. Maintenant, on peut aussi critiquer les intrigues.
Oui.
Comme je l'ai dit, la saison 1 avait un but et donc c'était assez quand même intéressant à suivre. Pour la suite, c'est plus de l'errance. Autre chose,
ah oui.
Et c'est un petit peu embêtant.
Clairement, on a toujours l'espoir qu'il y a une solution ou une amélioration de leur situation, mais actuellement, c'est pas vers ça qu'on va. Et bon, voilà.
C'est pas vers ça qu'on va, et on retrouve régulièrement de très bons acteurs qu'on a connus dans d'excellentes séries précédemment et qui sont utilisés finalement pour pas grand chose, et ça, c'est un peu dommage, je trouve.
Parfait.
Voilà.
The Walking Dead, c'est en cours. Vous pouvez trouver ça un peu partout. On en est à la saison 5, épisode 3 ou 4. Voilà.
3 ou 4.
Parfait. Merci. On va retrouver peut-être une musique qui est sortie de cette série.
Exactement. C'est Oats in the Water de Ben Howard. Fear what
wrong. Oh, I'll find my own way down. Oh, as I should. And hold your gaze as cold can the Midas touch. A joke in the way that we rust and breathe again. And you find lost, and you fear what you found. No air comes or tear down. There'll be homes and order.
Place au débat de la semaine, le sujet sérieux abordé par Aurore et moi-même. Alors, Aurore, tu lances le débat.
Voilà, en fait, je m'interroge sur la notion de série d'auteur suite à un article que j'ai eu l'occasion de lire de Sébastien Mauge qui présentait The Nick, la série de cet été réalisée par Steven Soderbergh, comme la première véritable série d'auteur. Et il défendait son point de vue en disant que Soderbergh, contrairement à de nombreux autres projets, séries qui ont été déclinées depuis quelques années, qui à chaque fois nous sont présentées comme les séries d'un réalisateur, mais en fait se révèlent être réalisé uniquement pour ce qui est d'un ou deux épisodes par le grand réalisateur en question, oui. Et puis après repris par d'autres petites mains, on va dire.
Il lance le concept habituellement, oui.
Voilà, et là, ben Soderbergh a vraiment pris la série en main du début à la fin. Et donc, lui, il appréciait particulièrement ça, et il disait, même si c'est vrai que généralement dans les séries, ben, c'est une équipe qui est derrière tout ça et tout,
on
a quand même tendance à penser qu'il faut qu'il y ait une personne qui donne une direction et qui apporte sa vision dans la série. Alors, j'ai plusieurs choses à dire et c'est vrai que je suis assez partagée sur ce sujet-là. Premièrement, parce que je suis pas sûre du tout que ce soit une bonne chose de plaquer sur la série les mêmes critères que sur les films. Tout simplement parce que autant je peux m'accrocher à un film particulièrement bien réalisé pendant 2 heures, on va dire.
Oui.
Mais c'est vrai que pour une série, à moins d'être vraiment très très calé en réalisation, s'y connaître à fond et savoir exactement ce qu'il voulait faire et comment il l'a fait, etc. Moi, quand je regarde une série, la manière dont c'est réalisé, c'est pas du tout ce qui va primer.
Non.
Et donc, ben, je suis pas sûre que le fait que ce soit Steven Soderbergh qui soit aux commandes du début à la fin, ça change grand chose à mon amour pour une série, quoi.
Mais outre le débat série d'auteur, film d'auteur, je pense qu'ils ont déjà essayé dans le passé de nous vendre ça d'une manière un peu plus marketing. Pense à la série produite par Tom Hanks, c'était quoi, The Pacific ou Band of Brothers?
Oui, les deux.
Voilà, High Incident, je sais plus trop qui était derrière High Incident, mais elle a été aussi poussée très fortement, produite par...
Je me souviens plus.
Voilà. Mais tu te souviens que c'était ça aussi. C'est pas Tarantino ou je sais pas qui, hein. High Incident, on recherchera, on va googler, on donnera l'info juste après la musique. Mais je crois que ça a déjà été tenté, cette espèce de concept de série à regarder, parce que derrière on a une personnalité de la réalisation. Mais c'est vrai que moi j'ai le même avis que toi à ce niveau-là. Pour moi c'est du travail d'équipe et je ne recherche pas nécessairement un auteur particulier derrière une série. Une série c'est un univers complet qui est long Et je crois qu'un seul homme, une seule personne ne peut pas tenir comme ça, ne peut pas détenir la responsabilité ou l'image intégrale de la série. C'est pas possible.
Et malgré tout, il est super important qu'il y ait un très bon showrunner qui gère la direction et quelque part la bible de ce que va être la série. Et oui. Ça peut être notamment aussi la bible visuelle de ce ou musicale de ce qu'est la série. Hein. La bible, ça comporte énormément de choses. Donc ça, c'est malgré tout important. Mais c'est vrai que en dehors de ça. Le fait que la série soit une autre manière d'envisager l'art, entre guillemets, hein, une manière renouvelée de voir l'art comme quelque chose de collectif et qui même peut s'accompagner d'autres médias à côté qui vont faire écho, soit à travers des livres, à travers de la musique, enfin à travers toute une série de choses qui vont vraiment... pouvoir être englobé dans l'œuvre dans son ensemble, c'est ce qui fait pour moi l'intérêt d'une série par rapport au cinéma. C'est ce qui fait que les séries, c'est pas du cinéma et j'aimerais que ça reste comme ça. Et
tu défends.
C'est vrai que moi, ça m'embête un petit peu que cette distinction se fasse de moins en moins. Qu'on dise de plus en plus que les séries, c'est le nouveau cinéma. Non, les séries, c'est pas le nouveau cinéma. Ouais, les séries,
c'est. Un même format,
c'est
l'image.
C'est autre chose. Voilà. Grâce au fait qu'on reconnaisse de plus en plus les qualités des séries, oui, on a de meilleurs réalisateurs, de plus gros budgets, etc., etc. Ça, c'est excellent, c'est une très bonne chose. Mais de là à vouloir en faire un truc d'une vision individuelle d'une personne qui viendrait comme ça uniquement présenter sa petite affaire, ça me dérange un petit peu.
Oui. Et dans le cas de Soderbergh, si ça tombe, c'est juste parce que le gars, il a rien d'autre à faire et qu'il a le temps de
oui,
suivre son projet entièrement.
Là, je crois que t'exagères.
Non, ok, je suis méchant.
Non, t'es méchant.
Mais
non,
voilà. Non. On n'en sait rien, mais non, moi je pense pas qu'on puisse réduire quelque part la série télé à l'œuvre d'une seule personne.
Mais même si, à nouveau, la vision d'une personne est importante.
Oui,
hein.
Il y a certainement une sorte de gourou, le showrunner, comme tu l'appelles,
voilà.
qui a une vision globale du truc.
Mais ceci voilà. dit, ce showrunner, justement, il n'a pas attendu qu'on voit dans les séries le nouveau cinéma pour être là et pour donner la direction qu'il voulait donner à ces séries. Je crois que si aujourd'hui les séries sont si bien cotées, c'est notamment grâce à David Simon, qui est une de ces personnes comme ça qui ont donné une impulsion à certaines séries dans le propos qui voulait mettre en scène. Mais c'est pas le contraire, quoi. C'est pas depuis que les séries sont devenues le cinéma que des gens comme David Simon ou Josh Whedon sont apparus dans les séries. Les showrunners ont toujours été là malgré tout et l'idée d'une bible et d'une personne qui mène la barque et qui gère une équipe est, à mon avis, un peu plus juste que cette idée un peu réductrice. À mon avis, très, très européenne aussi, de voir l'art comme l'œuvre d'une seule personne et toujours d'un seul auteur. Faudrait peut-être un petit peu dépasser ça quand on parle de série, quoi.
Bien, Aurore.
Et ceci dit, sans vouloir dire quoi que ce soit de mal par ailleurs de ce pauvre Sébastien Mauge que j'apprécie.
Oui.
Non, voilà.
Tu ne contredis pas méchamment. Voilà, c'est un débat qui est lancé.
Voilà.
C'est un point de vue.
Un questionnement que j'ai en tout cas.
C'est plus une réflexion. Voilà. Très bien. Moi, je vais m'en vais aller vite googler pour voir qui a pu produire I Incident. Comme ça, je réparerai un peu mes erreurs et mon inculture. Et nous allons faire une petite pause musicale.
Oui, on va s'écouter. Eh ben justement, on va un petit peu remettre de l'ambiance avec Are You Gonna Be My Girl de Jet, entendu dans Scrubs.
Thank you. with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see you home with me, but you were with another man. Yeah, I know we ain't got much to say before I let you get away. Yeah. I said, are you gonna be my girl? Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl?
Merci à Internet. Donc, High Incident était évidemment produite par Steven Spielberg et apparemment, il en a produit beaucoup.
Oui, hein, Steven Spielberg, c'est justement quelque part l'exemple de ce qu'on a dit, puisqu'il en a produit énormément. Et c'est la preuve que c'est pas parce qu'il y a un grand nom derrière et qu'à chaque fois on nous présente ça comme la nouvelle série de Spielberg que c'est de qualité et que c'est vraiment une série de Spielberg avec la vision de Spielberg derrière. Hein.
Voilà, mais là il était producteur, il n'était pas vraiment... Donc producteur dans ce cas-là, c'est plus le financier.
Oui,
quoi,
oui, hein, mais bon. La plupart du temps c'est ce qu'il fait, oui.
Très bien, allez, on va revoir une série terminée, sympathique, Malcolm in the Middle.
Oui.
Petite comédie.
Oui.
Qui a duré combien de saisons, dis-moi ?
Qui a duré 7 saisons. Alors, c'était produit par la Fox et ça a duré de 2000 à 2006. Donc ça commence un petit peu à dater déjà.
Oui.
Et pourtant par certains côtés, elle peut paraître encore relativement novatrice par rapport à d'autres comédies qu'on peut nous présenter. Hein.
Oui, et au minimum actuelle, quoi. Ça n'a pas vraiment trop mal vieilli.
Voilà. Alors, elle a été créée par Linwood Boomer et on y retrouve dans les rôles principaux Frankie Muniz qui joue le rôle de Malcolm, Jane... Alors là, ça va être impossible. Kaczmarek, finalement, c'était
très
possible, qui joue Loïs. Bryan Cranston, évidemment, qui joue Al. Justin Berfield, qui joue Reese. Eric Per Sullivan, qui joue Dewey. Et Christopher Kennedy Masterson, qui joue Francis. Je vous propose Non, d'abord je vais vous expliquer un petit peu de quoi ça parle.
Oui.
Donc pour ceux qui n'ont jamais regardé Malcolm, ça nous... C'est une comédie autour d'une famille. Une famille qui, au moment où commence la série, a déjà 4 fils. 4 fils qui sont tous plus ou moins insupportables. Et c'est une famille qui n'a pas énormément de moyens, très très juste au point de vue financier. Et donc ils vivent tous un petit peu l'un sur l'autre, à passer leur temps à s'engueuler et à se battre. Hein. Mais on va assez vite le savoir avec... En tout cas, dans le chef de Malcolm, un grand espoir, puisque dès le pilote, on apprend que celui-ci serait peut-être un enfant avec un QI exceptionnellement élevé. Ça commence comme ça, mais ceci dit, on ne va pas uniquement se pencher sur la problématique des enfants à QI élevé.
Au potentiel, oui.
Voilà. C'est pas vraiment le sujet principal de la série, c'est plus lui qui, le regard de cet enfant sur les dysfonctionnements de sa famille. Que l'on va pouvoir observer pendant cette saison. Je vous propose d'écouter un extrait du pilote qui nous donne assez bien l'ambiance dans laquelle nous plonge la série, et on se retrouve juste après pour donner 3 raisons pour lesquelles ça vaut la peine de regarder la série.
You better not be fighting in there, Reese. Malcolm, I said you better not be fighting in... Reese! Malcolm! Can I help you?
Oh, my goodness. Hi. Hello. I'm Carolyn Miller from Malcolm School. I sent you some letters and left some messages on your answering machine.
Okay, fine. You caught me. What do you want?
Well, it's been 3 weeks and you haven't responded. And it's really important. I mean, well, for Malcolm's sake, that the parents be as involved as...
So what? You're here to insult my parenting skills?
No, I'm sure you're a terrific parent. I'm here because I think that there is a tremendous opportunity for... Could you, maybe put a top on?
They're just boobs, lady. You see them in the mirror every morning, and I'm sure yours are a lot nicer than mine.
That's actually not the
nature
of my business.
You know what? I'm going to tell you something else. The reason I didn't respond is because it is a load of crap.
What?
You are not going to stick my Malcolm in some special ed class.
But
what is it with you people? Why do you feel you have to label everybody? Malcolm may be a little strange, and I know, he never shuts up, but he is not disturbed. You know, he's a good boy.
Please! You know what? You don't understand at all. Okay? So if I could just come in for a minute, I could explain everything. Okay?
Voilà, on va vous donner 3 raisons de regarder cette série Malcolm. Alors moi, je vais déjà en donner une et j'espère ne pas tomber sur tes plates-bandes.
Oui.
Je vais essayer d'être original, tu sais bien que je ne prépare pas l'émission avec toi. Moi, ce qui me fait très plaisir dans cette série, c'est notamment de revoir des acteurs dans leur jeune temps. C'est-à-dire qu'on a regardé la série à l'envers, enfin pas à l'envers, mais on a eu l'occasion de voir beaucoup des acteurs qui sont présents dans cette série, dans d'autres séries depuis, et on les redécouvre, 20 ans, 15 ans plus jeunes.
Oui.
Et ça fait plaisir parce qu'ils sont tous connus quasiment, donc voilà. Plus ou moins, hein. Il y en a deux bien reconnaissables.
Évidemment, Bryan Cranston a depuis connu la gloire télévisuelle qu'on lui connaît. Mm-hmm. On peut aussi reconnaître dans ses très jeunes années Hayden Panettiere. C'est vrai que c'est assez mignon à regarder, même si elle a fait quand même énormément d'autres séries en dehors de celle-là. Alors,
ce n'était pas tes critères.
Là, c'était pas mes critères, okay. Non, c'est vrai. Alors, la première raison que moi je vais donner, ce sont les personnages. Alors, les personnages, on s'y attache très vite, mais je dois dire que un des intérêts, c'est que en dehors du fait qu'ils sont attachants et plutôt drôles, on a l'occasion de les voir évoluer pendant 7 ans et surtout. Une fois qu'ils sont caractérisés, une fois qu'on leur a donné, par exemple, une qualité, eh bien, ça va se maintenir pendant toute la série. Il y a d'autres sitcoms dans lesquels, à un épisode, tel personnage va s'intéresser à la musique, par exemple, et puis on n'en parle plus du tout dans la suite de la série. Ici, c'est pas le cas. On a une vraie évolution des personnages avec chacun, même si le personnage de Malcolm, qui est un petit peu l'intérêt principal qui nous est donné au départ, en tout cas, directement on sait qu'il est caractérisé comme le petit génie qui porte un regard un petit peu intelligent sur la manière dont fonctionne sa série, mais ses frères autour de lui vont chacun avoir leurs problématiques propres, et ce sera la même chose pour les parents aussi, qui ont leurs propres intrigues, qui ont leur propre manière d'être et qui réagissent à chaque fois avec cette personnalité-là. Et c'est assez agréable à suivre sur le long terme grâce à ça. On voit vraiment une constance.
Voilà.
Oui. Et par exemple, le personnage, ses frères qui, eux, n'ont pas forcément au départ de caractéristiques très, très identifiables, petit à petit vont se construire une personnalité également, notamment le fait que Reez soit extrêmement doué en cuisine, ou le fait que Dewey soit extrêmement doué en musique, mais ça peut être aussi la rancœur que porte Francis à l'égard de sa mère qui va perdurer pendant toute la série.
Oui, et ce n'est pas lassant de voir tout le temps ces petites mimiques se répéter, puisque les situations sont tout le temps différentes, renouvelées,
oui.
C'est assez frais.
Oui.
Donc c'est même intéressant de voir comment on adapte toujours les mêmes caractères, les critères de caractère dans chaque situation différente.
Oui, et par exemple, le personnage du père, le personnage de Hal, est intéressant à ce niveau-là, puisque contrairement à ses fils, lui, il ne va pas se spécialiser dans une caractéristique particulière, mais par contre, à chaque fois qu'il s'intéresse à un sujet, il s'y intéresse avec la même passion et de manière totalement extravagante. Et quelque part, c'est son trait de caractère qu'on va retrouver pendant cette saison.
Mmh.
Et chacun, c'est comme ça. Ils ont aussi chacun leur problématique. Quand par exemple Dewey va se créer sa propre vie, on soupçonne que lui pourrait être aussi un petit génie, mais quelque part c'est totalement vécu d'une manière différente pour lui, pas grâce à son intérêt pour la musique. Eh bien, du côté de Reez, qui lui apparemment a beaucoup plus de difficultés intellectuelles, on va dire, mais ça le rend également très touchant dans sa manière d'être, beaucoup plus fragile qu'on pourrait s'y attendre au départ. Et donc on peut avoir de beaux moments aussi de vérité du personnage grâce à cette caractérisation. Alors, deuxième chose, je vais dire la manière dont certaines pensées sont mises en scène, qui me semblent particulièrement originales et drôles et vraiment savoureuses à suivre. Je pense notamment souvent à la manière totalement créative dont Dewey voit le monde, et souvent la caméra se met au service de son regard et nous montre ce que lui voit, et c'est toujours assez drôle à regarder. Et il y a comme ça quand même une recherche de manière créative de nous montrer les choses qui sont assez savoureuses, et toujours au service évidemment du comique, puisqu'il s'agit d'une comédie avant tout.
Oui, et qu'il est très 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 fort, comique. Enfin, c'est un humour accessible et on ne peut pas rester très longtemps sans sourire, quoi, devant un épisode.
Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que c'est très grand public et accessible à tout le monde. Enfin, eh bien, les sujets traités sont aussi intéressants, et notamment la liberté de ton qui nous est montrée dans la série. On nous présente quand même une famille totalement dysfonctionnel, très très loin des clichés de la famille modèle qu'on pouvait avoir dans les sitcoms des années 80.
Moi j'imagine que cette série a dû choquer une partie de l'Amérique quand elle a été diffusée.
Hein. Ah, c'est bien probable, hein. Notamment mais quand dès le pilote, on voit comme ça la mère qui se promène pendant toute la scène que j'ai choisie pour extrait. Alors on ne le voit pas parce qu'évidemment c'est toujours bien, mis en scène. Mais elle se promène topless pendant toute une scène et devant ses fils quelque part, et c'est vraiment une manière de présenter la vie de famille de manière beaucoup plus réaliste.
Oui,
on peut,
je me souviens de
scènes
où on voit aussi le père assez souvent nu dans la pièce.
Oui.
Mais une nouvelle fois, on ne voit rien de choquant. Hein. C'est bien fait.
Non, on ne voit rien, mais c'est vraiment suggéré et ça montre la proximité et l'intimité qu'il peut y avoir au sein des familles et surtout de ce type de famille-là qui est une famille financièrement en difficulté. Ce qui est aussi souvent abordé, c'est la dernière chose que je donnerais pour justifier l'intérêt de cette série, notamment à travers le final et le discours que fait Loïs à Malcolm dans le final. Il y a véritablement une prise de position pour la défense des classes très très moyennes, on va dire,
oui.
qui fait aussi plaisir, voilà.
Bah, c'est malgré tout un miroir d'une certaine Amérique. Bon, ok, les situations sont souvent très très exagérées, mais on sent que c'est le miroir d'une classe sociale américaine existante.
Voilà, et qui...
Et qui n'a pas facile et qu'il faut défendre quelque part.
Voilà. Et là, pour une fois, elle est visible.
Oui,
donc,
souvent occultée.
Merci à Malcolm in the Middle de nous avoir montré ça aussi.
Oui, une Amérique sympathique, au final.
Malgré tout, oui.
Oui, tout à fait. Merci à découvrir donc dans vos bons petits magasins. La série est disponible en Belgique.
En DVD.
En DVD,
oui.
Certainement. Oui. Voilà. La suite, c'est la musique.
Alors la musique, c'est Been Here Once Before de Eagle Eye Cherry, évidemment entendu dans Malcolm in the Middle.
Got your back up against the wall. Now you know that after all, when you make mistakes like that, there's no more turning back. Now we've gone and we lost our head, you better off just playing dead. But once you're wearing that black hat, there's no point in turning back. I know should you go when your call comes in? Once you see all the blood that flows, I don't think you'll be winning more. Now I thought that was all on the past, and that peace would come at last. But once again we are at war. Yes, I know we've been here before. I know we've been here once before. That's for sure. Once before, you've been here, that's for sure. But I don't think you'll be winning more. You've been here once before, you've been here, that's for sure. Once before,
Oh, we've been here, that's for sure. I don't think you'll be wanting more. Oh, we've been here once before. Oh, we've been here, that's for sure.
Bien voilà, il est déjà temps de se quitter sur le générique d'Incident, puisqu'on en a parlé. On se retrouve la semaine prochaine, Aurore.
Oui.
Le podcast de cette émission sera disponible dans les prochains jours via notre site internet www.seriefolie.be ou via le flux RSS si vous y êtes déjà abonné. Ou sinon, toute l'actu de votre émission préférée se trouve également via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Seriefolie. Vous cherchez un petit peu, hein. On va pas vous mâcher le boulot aujourd'hui. À la semaine prochaine. Bonne écoute de votre radio.